Bonsoir à tous. Donc, le temps que nos invités s'installent, voilà, je vous accueille et vous remercie d'être venus pour cette nouvelle table ronde sur les nouveaux modèles économiques des médias. Donc, de ce cycle reportage, vous remonte la plaquette. C'est aussi que nous menons maintenant depuis 6 mois autour du temps long, du reportage en journalisme. Et donc, ce soir, je remercie chaleureusement Jean-Marie Charon qui a accepté de modérer cette soirée. Donc sociologue au CNRS, et je vais lui céder tout de suite la parole pour qu'il présente nos trois intervenants. Et je vous donnerai quelques précisions ensuite sur l'enregistrement de ce soir et les autres dates à venir. Merci à tous.
Oui, bonsoir, merci. Donc effectivement, on ne peut pas imaginer réfléchir sur l'évolution du reportage comme si on était hors sol, comme si tout ça ne se faisait pas dans le cadre d'entreprise, comme s'il n'y avait pas des journalistes qui devaient consacrer du temps, pouvoir se déplacer, etc. D'où cette soirée qui est consacrée donc à la thématique du modèle économique. Le terme est peut-être un peu... Soit il est très familier à certains, soit il peut paraître un peu dur, technique. Donc on va parler des ressources des médias, de leurs coûts. Et on va le faire à partir effectivement de deux éditeurs. On va prendre le terme d'éditeur sans préciser si c'est en presse écrite, si c'est sur le numérique, qui vont nous expliquer comment effectivement ils abordent la création de médias aujourd'hui. Et on va le faire avec un regard extérieur d'une personne qui, au niveau de l'État, est chargée de suivre, c'est lui qui suit le secteur de la presse écrite. Alors pourquoi peut-être davantage aujourd'hui s'interroger sur ces questions de modèle économique ? Visiblement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu grippé dans la machine. Ça s'est grippé même fortement. On peut dire que les choses commencent un petit peu à se gâter, surtout à partir de la dernière décennie des années 2000. Souvent, on a tendance à faire le lien entre les transformations technologiques. C'est vrai que le numérique y est pour quelque chose. C'est aussi, on fait le lien avec les transformations de la société aussi. Ça, on a parfois plus de mal à l'entendre, mais c'est souvent la question, par exemple, de la montée, certainement, de l'individu, l'affaiblissement peut-être de tout ce qui est collectif qui va jouer. Donc, en fait, dans la question du modèle économique, il y a à la fois, me semble-t-il, la question de la transformation des usages. Le public, à partir de la fin des années 90, transforme sa relation aux médias. Alors on a souvent évidemment gardé en tête la question, par exemple, de la gratuité, qui va interférer. C'est vrai que si je me tourne vers mon voisin qui publie des magazines et que je lui dis écoute, aujourd'hui c'est gratuit, de toute façon on considère que l'information c'est un service public, etc. Donc il y a la question de ce problème de la gratuité, et puis il y a d'autres questions. On est attiré peut-être davantage par un certain type de médias aujourd'hui. C'est vrai qu'il me semble, même si c'est pas, il faut peut-être pas caricaturer la chose, mais que tout ce qui est grand masse média est beaucoup moins attractif, alors qu'on va davantage peut-être trouver des publics qui s'intéressent à des choses qui sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises, dans des domaines où chacun se reconnaît davantage. Donc ça, c'est les premiers sujets. Qu'est-ce qui se passe du côté du public ? Il y a bien d'autres choses encore. Le deuxième sujet, c'est que ceux qui participaient au financement des médias, que souvent d'ailleurs on regarde avec un peu de dédain, les annonceurs, la publicité, ces intervenants-là ont davantage d'espace pour faire passer leur message, renouvellent la manière de le faire, et vont peut-être consacrer moins d'argent, moins de moyens au financement des médias. Et puis le troisième élément, c'est que le numérique, l'Internet, a fait émerger de nouveaux acteurs. On en parle sans arrêt. Alors certains les appellent des GAFAM, d'autres les appellent des infomédiaires, enfin, etc. On voit bien, ce sont ces grands intervenants, moteurs de recherche, fournisseurs d'accès Internet, réseaux sociaux, qui se sont intercalés entre le public et ses médias. Et tout ça, effectivement, ça vient très fortement compliquer le modèle économique. Donc j'ai dit, on a deux éditeurs pour en parler et on a un spécialiste expert aux fonctionnaires qui suit ce secteur. Alors, dans l'ordre, on a Franck Anaisé, qui est donc éditeur de presse écrite au sens imprimé. Il ne fait pas que de l'imprimé, mais il fait surtout de l'imprimé. Et il a une actualité que j'ai là, c'est-à-dire qu'il vient de sortir un magazine qui s'appelle Tada. Il a beaucoup d'autres magazines, mais il va vous expliquer cela. Deuxième intervenante, c'est Isabelle Roberts, qui, elle, est éditrice, cofondatrice et journaliste d'un site internet, on dit Pure Player, Les Jours, qui a pris le parti effectivement du reportage et qui va nous expliquer comment effectivement sa démarche s'est engagée. Et puis on a l'observateur, le spécialiste, l'analyste, l'organisateur aussi du secteur, Fabrice Casadebec, qui est sous-directeur presse écrite à la DGMIC, hein, qui est le bras armé du ministère de la Culture dans le domaine des médias. Alors j'ai demandé justement à Fabrice peut-être d'ouvrir la discussion. Moi j'ai donné quelques éléments un peu comme ça en vrac. Je crois que lui, il a des chiffres plus précis qu'il peut nous donner pour resituer un peu comment évolue le modèle économique de la presse. Par exemple, c'est assez intéressant, on a tous en tête que de nombreux secteurs économiques voient leurs revenus augmenter année après année. Dans le cas de la presse écrite, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Merci Jean-Marie, c'est le moins qu'on puisse dire en effet. Bonsoir à tous. Quelques données effectivement économiques sur le marché de la presse. Le marché de la presse, c'est dans le jargon des économistes un marché à double face ou un marché biface, puisqu'on peut considérer que les acteurs en fait de clients, je parle juste du point de vue économique, d'un côté les lecteurs qui achètent le contenu d'information, qui sont leur premier interlocuteur, ceux dont ils cherchent à satisfaire les besoins d'information, de curiosité, de réponse à leurs interrogations sur le débat public du moment, et aussi, Jean-Marie en parlait, les annonceurs qui sont un autre client, entre guillemets, de l'éditeur de presse classique. Et donc, pour regarder l'évolution du marché de la presse en général, il faut regarder les deux faces de ce marché, la face des ventes et la face de la publicité ou des annonces, qui est reliée en fait par une donnée, qui est la diffusion payante, qui va servir à la fois à valoriser, qui va apporter directement les recettes de vente dans le modèle économique du titre, et qui va servir aussi à valoriser sur le marché de l'annonce ou de la publicité, puisqu'évidemment, vous ne tarifez pas, entre guillemets, de la même manière une annonce qui est largement diffusée ou moins largement diffusée. Donc si on regarde justement cette grandeur de la diffusion payante de la presse, on observe en fait qu'entre 2007 et 2015, elle a reculé de 20%. Donc c'est le cœur du dispositif. Il y a de moins en moins de monde qui achète la presse payante en France, avec donc une atténuation de cette baisse pour ce qu'on appelle, nous, la presse d'information politique et générale, c'est-à-dire la presse qui vient éclairer le jugement des citoyens et qui fait office de contribution au pluralisme du débat d'idées, dont la diffusion, elle, n'a diminué que de 14% sur la même période. Ça a une incidence à la fois sur le chiffre d'affaires de la presse et on va voir sur ces doubles déclinaisons à la fois le chiffre d'affaires des ventes, bien sûr, et le chiffre d'affaires de la publicité. Le chiffre d'affaires de la publicité, le chiffre d'affaires global de la presse, pardon, il a diminué de 30% en fait entre 2005 et 2015. Le poids dans le PIB, c'était 10,6 milliards d'euros. En 2005, ce n'est plus que 7,4 milliards d'euros en 2015. Dans les années 2000, c'était encore 1% du PIB, la presse, et aujourd'hui, on est en deçà de 0,4% de la production de richesses dans l'économie. C'est particulièrement rapide depuis 2009, cette baisse du chiffre d'affaires, en particulier en raison de la crise économique qui a fortement réduit les recettes publicitaires, on le verra tout à l'heure. C'est assez variable selon les formes de presse. Vous avez grosso modo la presse quotidienne nationale qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 27% sur cette période 2005-2015. Les news magazines un peu moins, c'est 15% de baisse de chiffre d'affaires sur la période. Et en revanche, il y a des formes de presse qui souffrent plus encore. La presse magazine, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, la presse spécialisée grand public, qui a vu quasiment un tiers de ses ressources disparaître entre 2005 et 2015, et la presse spécialisée technique et professionnelle, la presse pro, qui, elle, a vu plus d'un tiers de ses recettes disparaître au cours de la décennie. Et grosso modo, l'IPG, je l'ai dit, résiste mieux. C'est 22% au niveau national de baisse des recettes globales de la presse. Et c'est encore plus atténué au plan local. On connaît l'importance du réseau de la presse quotidienne régionale et de l'ensemble de ces éléments locaux. Là, la baisse n'est que de 17% au plan local. Donc ça, c'est le chapeau global. Donc les grandeurs à retenir, c'est moins 20% pour la diffusion, moins 30% pour le chiffre d'affaires. Et si on regarde ensuite, en distinguant la partie des ventes d'exemplaires de presse et la partie des annonces, on voit qu'on a une évolution qui est fortement variable. La baisse pour les recettes de vente, elle est de 17% sur la période. On est passé de 6 milliards d'euros à 5 milliards d'euros. Je suis toujours sur la même période 2005-2015. Et c'est principalement les recettes de vente au numéro qui ont fortement baissé. C'est un tiers de baisse pour les ventes au numéro. Les ventes par abonnement, elles augmentent plutôt sur la période. Donc on voit une évolution du modèle économique. On sait que l'abonnement permet à la fois une avance de trésorerie, puisque en général vous vous abonnez pour un an, donc vous achetez par avance des numéros qui ne sont pas encore produits. Donc pour l'éditeur, c'est un confort de trésorerie qui est important. Et puis ça permet aussi des tarifs postaux préférentiels pour une certaine forme de presse. Je pourrais y revenir. Les recettes de vente, elles représentent aujourd'hui 2/3 du chiffre d'affaires de la presse. C'était simplement 57% en 2005. Donc on a déjà un indice de la manière dont les recettes de publicité ont évolué au cours de la même période. Les évolutions de la diffusion payante sont, en nombre d'exemplaires, sont encore plus importantes, évidemment, que ce chiffre d'affaires. Mais comme dans l'intervalle, les prix ont augmenté, l'incidence sur les recettes globales de vente n'est que de moins 17%, comme je l'indiquais. Si on regarde ensuite du côté de la publicité, on voit que là, la baisse est 3 fois plus importante que pour les recettes de diffusion payante. On est à moins 48%, donc c'est quasiment une division par deux des recettes de publicité. Pour la publicité commerciale, on est passé grosso modo à 1,9 milliard d'euros de recettes en 2015. Ça ne représente plus qu'un quart du chiffre d'affaires de la presse. C'était un tiers en 2005. Et si on regarde du côté des annonces, donc les petites annonces ou les annonces judiciaires et légales, qui sont une spécificité notamment pour la presse locale, là on est autour de 500 000 euros de recettes. Et c'est là encore une division par deux depuis 2005. Avec, malgré tout, une part importante d'annonces qui reste pour la presse en région, puisque ça reste toujours 300 000 euros sur les 500 000 de recettes d'annonces de l'ensemble de la presse. Donc, moins 20% de diffusion payante, moins 30% de chiffre d'affaires, qui se détermine avec moins 17% de recettes de vente et moins 48% de recettes de publicité. Donc un bouleversement absolument majeur, effectivement, du modèle économique. Une interrogation aussi sur la part de la publicité. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'éditeurs qui en ont fait, d'une certaine manière, l'étendard de la redéfinition du rapport au lecteur. Et on sait par ailleurs que les questions du rapport annonceur-rédaction font partie, évidemment, des débats d'actualité. Et peut-être on peut regarder aussi en termes de chiffres l'évolution de la taille de l'échantillon. On a un indicateur assez intéressant, puisqu'on délivre au sein d'une commission paritaire qui associe à la fois des éditeurs de presse et des représentants des administrations le label de ce qui définit la presse en France, d'une certaine manière, qui permet de distinguer la presse qui est un écrit périodique d'un livre, par exemple, ou qui permet de distinguer la presse en ligne d'un blog, par exemple. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les titres papier, on est passé de 10 000 titres en 2006 à 7 244 à la mi-mars 2018, donc une réduction du nombre de titres de 28% sur la période. D'accord. Donc un constat qui n'est pas particulièrement optimiste si on regarde la situation.
Oui. Mais est-ce qu'il y a quand
c'est
même
pour
des
ça
titres
qu'il faut rebondir.
Est-ce qu'il y a des titres? Il y a moins de titres, mais est-ce qu'on en crée encore dans les statistiques?
Il y a évidemment des créations de titres, des créations de titres nombreuses dans les dernières années. notamment des catégories nouvelles de titres d'information politique et générale au plan local et des titres de nouvelle périodicité. Je dis ça sous le contrôle de Franck, qui avec Society a fait ce qu'il appelle lui un bi-hebdomadaire, un quinzomadaire et non pas un bimensuel dans son jargon. Mais donc effectivement, on voit de nouvelles périodicités. Sans doute aussi une manière de s'adapter au temps de lecture disponible, si j'ose dire, du lecteur. C'est-à-dire, il y a un moment où la presse papier était le lieu où on apprenait les informations. François, la 12e édition du soir, à chaque nouvelle édition, une nouvelle information. Ce rôle aujourd'hui, c'est plutôt BFM TV ou les matinales radio qui le jouent. Donc, sur le papier, pourquoi on écrit ? Sur le web, quel type de narration ? Enfin, en gros, chacun de nos invités ce soir a répondu à sa manière à cette question. Comment rendre encore indispensable le papier aujourd'hui, mais comment évoluer dans la manière dont on va répondre aux besoins qui sont là, on le sait bien, du public qui en redemande.
D'accord. Alors donc, on crée encore. C'est surtout ce qui nous réunit un peu peut-être ce soir. On crée encore et on crée beaucoup. Moi, j'avais été frappé il y a 2-3 ans quand on m'avait demandé de faire un peu un panorama du secteur de la presse. J'avais été frappé de voir à quel point il y avait beaucoup d'initiatives, alors qu'effectivement, il y a un climat général qui pourrait nous laisser penser qu'il est compliqué de continuer à investir dans ce secteur. Alors, on va peut-être partir d'un premier cas de figure, qui est celui d'Isabelle, c'est-à-dire une équipe de journalistes qui viennent de la presse écrite quotidienne et qui, à un moment donné de l'histoire de leur titre, sont amenés à re-réfléchir à un projet et vont lancer, donc, non pas un titre papier, mais un titre numérique. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait des actualités, il y avait Dada pour mon voisin. Aujourd'hui, il y a une autre actualité. Les Jours sortent une nouvelle série autour de l'information politique, mais traitée au travers du prisme de la data et avec un partenaire qui est une start-up spécialisée dans le data journalisme. Mais elle va mieux nous expliquer ça que moi. Alors, comment, quand on veut créer un nouveau projet, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, comment on met tout ça en place pour pouvoir faire en sorte que un nouvel éditeur apparaît sur le web, et avec quel parti pris éditorial, avec quel pari en termes de public et avec quelle projection sur ce que seront les ressources. Et puis les choix, on a parlé pub ou abonnement ou autre forme de financement. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que le public finance en amont ou des choses comme ça ?
Eh bien, après ce paysage catastrophique, on a l'impression d'être un peu des fous avec Franck à oser lancer un média. Lesjours.fr, nous nous sommes lancés il y a 2 ans. Alors au départ, il y a 8 journalistes de Libération et on a été rejoints par un profil plus financier et start-up. Et en fait, il y a 3 constats. D'abord, un constat éditorial, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'infos qu'aujourd'hui, mais on n'a jamais eu autant de mal à être bien informé, qu'on retrouve les mêmes dépêches copiées-collées un peu partout sur Internet, qu'il y a une certaine BFMisation de l'information. Et que face à ça, le lecteur se retrouve asphyxié, et le journaliste aussi, finalement. Les deux se rencontrent. Nous, face à ça, ce qu'on a décidé de faire au jour, c'est de faire des choix forts dans l'actualité, de prendre des sujets qu'on va agripper et qu'on ne va pas lâcher. C'est ce qu'on appelle nos obsessions, qui sont des séries journalistiques. Alors, parmi ces séries journalistiques, bon, je crois qu'au bout de 2 ans, aujourd'hui, on doit être à plus de 80. Mais on peut parler des Revenants, de David Thompson, sur le retour de jeunes Français du djihad. On peut parler de L'Empire, sur comment Vincent Bolloré a mangé Canal+. On a pu traiter aussi des faits divers comme l'affaire Grégory ou bien l'éducation. Par exemple, ça, c'est intéressant. On s'est installé à la fac de Nanterre à la rentrée dernière. Et aujourd'hui, on est bien content de s'y être installé, vu que c'est quand même un des foyers de la rébellion estudiantine. Le deuxième constat, c'était un constat d'innovation, ou plutôt de manque d'innovation. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que la plupart des sites internet d'information en ligne, finalement, reproduisaient les journaux papier. Or, le numérique permet, ça permet tout un tas de possibilités, il y a tout un tas d'outils. Alors, Jean-Marie a eu la gentillesse de citer notre nouvelle série aujourd'hui qui commence, qui est uniquement en data visualisation avec We Do Data. Mais bon, il y a tout un tas d'outils qui ne sont pas assez exploités. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est donc faire des séries journalistiques, de faire un feuilletonnage assumé, de fonctionner par épisode, en utilisant à chaque fois tout ce qu'on pouvait utiliser quand ça vaut le coup, en laissant une grande place à l'image, à la photo, ce qui n'est pas toujours évident sur les sites internet, à la vidéo de plus en plus, à la data, etc. Donc ça, c'était le deuxième constat. Et puis, le troisième constat, c'était... un constat que les usages changeaient, en fait. Aujourd'hui, on s'informe de plus en plus en mobilité et on a voulu répondre à ça. Et ça, pour répondre à ça, c'est aussi avec une ergonomie adaptée. Et un gentil lecteur, ce jour-là, on était très contents, nous a dit qu'on était le Netflix du journalisme. Et voilà, on prend. Troisième constat, c'est un constat économique. Jean-Marie l'a évoqué aussi, les médias aujourd'hui sont détenus par de moins en moins d'acteurs qui sont souvent des industriels. Et parallèlement, les lecteurs font de moins en moins confiance aux médias. Il y a des sondages année après année qui montrent ça. Nous, on était persuadés et on a toujours cette conviction que la crise de la presse n'est pas une fatalité et que Internet n'est pas le lieu de l'info qui ne vaut rien et qui ne coûte rien. C'est pourquoi on a décidé de se lancer sur un modèle par abonnement, sans publicité, un modèle qui a fait ses preuves avec Mediapart et que, sur les pas duquel on a marché. Voilà, aujourd'hui, au bout de 2 ans, on a 9000 abonnés, on a eu un prix Albert Londres, c'est la première fois qu'un pure player a ce prix, mais rien n'est encore fait. C'est un message qu'il est aussi important de faire passer, c'est qu'aujourd'hui, nous, l'équilibre, il est à 15-16 000 abonnés, or on en a 9000, donc il faut qu'on continue à s'abonner au jour, et voilà, c'est bon message.
Quelque chose qui me paraît assez important, vous étiez combien, vous avez fait les choix on voit chez certains pure players, ce sont plutôt des jeunes, c'est parfois de la précarité, les niveaux de salaire ne sont pas toujours flamboyants. Mediapart, dont on vient de parler, il y a une équipe étoffée, des journalistes reconnus et des niveaux de salaire qui sont comparables à ce qu'on va trouver dans d'autres médias, c'est ça ? Vous, dans votre cas, c'est un peu la même chose ou c'est un effort plus important qui vous est demandé ?
Alors, au jour, on fait porter l'effort sur les cofondateurs, en fait. C'est-à-dire que les chefs sont beaucoup moins payés que les chefs normalement et les journalistes ont des salaires normaux de journalistes. Voilà. Mais on fait porter l'effort sur les gens qui ont décidé de fonder ce média.
Et vous êtes combien ?
Aujourd'hui, on est 15 salariés, 15 CDI, et on fait travailler aussi des pigistes et aussi des photoreporters indépendants.
D'accord, merci. Ben alors donc, on va passer à notre deuxième cas de figure. Là, on est sur la presse imprimée. Et effectivement, si simplement j'écoute la petite musique de ces dernières semaines, on entend qu'un groupe, Sopress, qui a déjà un certain nombre de magazines dans son portefeuille, eh bien, lance le magazine que j'ai montré. Il y a d'autres projets. Pourtant, on nous dit que c'est de plus en plus difficile, effectivement. On a un système de distribution qui est compliqué, qui est fragile, que le lectorat est difficile à faire venir. Donc, quelle est l'origine ? Comment vous êtes venu à ça ? Vous, par exemple, Franck, vous n'êtes pas vraiment sur un profil d'école de journalisme au départ, j'ai l'impression.
Non, mais j'ai rien contre les écoles de journalisme. Hein, je précise.
Non,
s'il y en a dans la salle, je vais me faire lâcher, sinon. Non, j'ai pas fait une école de journalisme, effectivement.
Une école de gestion, je crois. Non,
j'ai fait une école de commerce, ouais. Exactement. Ce qui m'a pas forcément servi à grand chose, de vous à moi, mais Je ne vais pas le dire trop fort parce que je les aime bien, ils sont super sympas. Non, j'ai fait une école de commerce, effectivement. J'ai monté mon premier magazine quand j'étais à l'école, c'était en 99, qui s'appelait Sofa, qui était un magazine de culture, un magazine de critique culturelle même, qui a duré 7 ans mais qui n'a jamais vraiment décollé, mais qui était un bon cas d'école pour apprendre à faire des magazines. Et par hasard, on a lancé un magazine de foot à un moment donné parce qu'on passait notre temps à jouer au foot. Et on a lancé SoFoot officiellement en 2003, en vrai en 2002. En 2002, on a commencé à faire des numéros zéro qu'on a mis en kiosque pour voir ce que ça donnait. Ça donnait pas grand-chose. mais on s'est dit, il y a peut-être quand même... On en vendait très peu, mais on avait tellement de retours sur le peu qu'on vendait qu'on se disait, c'est incroyable. On en vend 1500 et on reçoit 200 courriers. Il y avait un taux de rebond de la part des gens qui le lisaient qui était hallucinant. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, on a décidé de lancer SoFoot réellement. Et SoFoot a jamais décollé comme ça. En fait, ça s'est fait toujours petit à petit, progressivement. On a grappillé lecteur après lecteur, avec le bouche à oreille, jusqu'à devenir aujourd'hui, ça doit être le premier magazine de foot en France, si on enlève l'équipe. Quoi. C'était, enfin, l'équipe étant un journal. Donc, c'est pas si mal au final. Et puis, ça a permis surtout d'en lancer plein d'autres. On a lancé, donc aujourd'hui on a 12 titres, 11 titres, bientôt 12. Enfin, on en lance un 12e en octobre. Mais on en a 11 aujourd'hui. Donc on a SoFoot, on a SoFoot Club pour les plus jeunes, toujours sur le foot. On a un magazine de société qui s'appelle Society, qui est le magazine qui marche le mieux chez nous aujourd'hui. On a un magazine sur les enfants qui s'appelle Doolittle pour les parents. On a un magazine sur le running qui s'appelle Running Heroes, un magazine sur le cyclisme qui s'appelle Pédale, un magazine sur le rugby qui s'appelle Tampon, un magazine sur la musique maintenant puisqu'on a repris Tsugi, enfin on a intégré toute la bande des trois médias, donc on a un magazine sur la musique qui s'appelle Tsugi maintenant, et on a donc un magazine sur l'hippisme, enfin sur le cheval, qu'on vient de sortir, qui s'appelle Dada, et qui, contre toute attente, marche plutôt bien apparemment. C'est assez étonnant, ce magazine, mais qu'on a lancé un peu comme une farce. Mais je m'y attendais pas du tout, en vrai. J'ai lancé en me disant, ça, on va l'arrêter dans deux numéros. Et ben non, en fait, je crois qu'on va le continuer. Enfin, si ça continue comme ça, en tout cas. Donc là, on a 11 titres aujourd'hui. On fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la presse, donc c'est bien, sans être, on n'est pas un géant de la presse, mais on commence à peser un petit peu, entre 10 et 12 je pense. On gagne de l'argent, donc ce qui est très rare dans la presse, si j'ai bien compris les chiffres de tout à l'heure. On gagne à peu près 200 000 euros de marge sur la presse aujourd'hui, enfin là en 2017, ce qui n'est pas énorme en vrai. C'est-à-dire que sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros, ça fait un taux de marge. Si je me réfère aux enseignements que j'ai reçus en école de commerce, c'est pas ce qu'on appelle un gros business. Hein. On est clairement sur du petit artisanat, mais c'est très bien comme ça. Pour anticiper ta question, Jean-Marie, les gens sont relativement bien payés.
Vous êtes combien ?
On est en fait, c'est un peu bâtard parce qu'on est un peu plus de 100 aujourd'hui. On doit être 104, 105. Mais tout le monde ne travaille pas sur la presse. Sur la presse, on doit être 70, 80 peut-être, un truc comme ça. Donc c'est quand même ce qui représente le cœur de notre activité aujourd'hui et le poumon. Mais tout le monde ne travaille pas que sur la presse. Et ça se passe plutôt bien, dans un contexte qui est malgré tout très difficile, notamment récemment avec le Prestalis, puisque là, on va devoir tous mettre 2,25% de chiffre d'affaires au pot pour sauver. En vrai, ça ne va rien sauver du tout, ce qui est en train de se passer, mais bon, ça c'est un autre sujet, on peut en discuter. C'est-à-dire qu'on va juste perdre 2,25% de notre chiffre d'affaires pour rien, pour l'instant, ce qui est plus que notre marge. Si vous vous rappelez de 10 millions et 200 000, basiquement, potentiellement, en 2018, je perds de l'argent. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que je n'ai pas Vincent Bolloré, ni Monsieur Drahi, ni Monsieur Niel, ni Monsieur Dassault, ni tous les gens qui dirigent en partie les médias de ce pays, pour me remettre de l'argent au pot. Donc ça, ce n'est pas une super bonne nouvelle. Donc on est condamné à vendre plus et à vendre mieux. Donc plus, ça veut dire plus de magazines, et mieux, ça veut dire peut-être certains plus chers. Et puis pour endiguer, pour contrer en tout cas cette petite quote-part qu'on va donner à notre diffuseur, qui est essentiellement la faute d'une gestion assez catastrophique par ailleurs. Mais bon, vaste sujet. Je ne sais pas s'il est prévu d'en parler, mais très beau dossier en tout cas. Et voilà. Et parallèlement, on ne néglige pas le reste, c'est-à-dire qu'on a des activités digitales quand même qui sont pour l'instant des activités souvent assez expérimentales chez nous, parce que autant on sait bien comment, on a bien trouvé le modèle économique pour la presse, même si ça génère peu de marge, on s'en sort, et nous on n'a pas de dividende, il n'y a pas de dividende chez nous, donc c'est pas grave qu'il n'y ait pas beaucoup de marge, du moment qu'on ne perd pas d'argent, parce qu'on a commencé avec 450 euros de capital, donc ça faisait pas beaucoup pour, enfin disons que ça se perd rapidement 450 euros, hein, c'est, je sais pas, si vous essayez, vous verrez, ça va super vite quoi. Et les banques sont assez peu prêteuses. C'est-à-dire que je raconte souvent cette anecdote, mais la première fois où je suis rentré dans une banque pour emprunter de l'argent, avec mon beau diplôme dans la poche et tout, en me disant j'ai fait l'essai, que ça va être tranquille. Et effectivement, la Société Générale a été hyper reconnaissante de ce diplôme, puisqu'elle m'a proposé 100% du capital en prêt. Donc ce qui faisait 450 euros, je passais à 900 euros potentiellement à perdre. Autant dire que là, je pouvais carrément. Serge Dassault n'avait qu'à bien se tenir. Et donc voilà, donc on s'est construit petit à petit, donc c'est un peu notre petit trésor de guerre. Donc on n'a pas beaucoup d'argent à perdre, donc on essaie de faire attention à ne pas en perdre. Donc ce qui fait qu'on a un système qui est assez, qui s'est fait de manière empirique, mais qui aujourd'hui est devenu un système un peu ingénieux. C'est-à-dire qu'on a une rédaction unique. On doit être la seule rédaction à Paris. Et peut-être même dans le monde, j'en sais rien, mais où c'est les mêmes personnes qui écrivent dans Dada et qui écrivent dans Doolittle. Donc c'est les mêmes personnes qui vont vous parler de hippisme et qui vont vous donner des conseils pour éduquer vos gosses. Et qui en même temps vont parler de foot et de musique et de société. Et qui vont aller interviewer François Hollande ou François Fillon. Et ça, c'est une énorme richesse pour nous, parce que ça veut dire que si un titre ne marche pas, je peux l'arrêter tout de suite. En fait. C'est-à-dire que j'ai pas un problème de plan social, à condition que j'en relance un, ou que je relance une activité, ou que ces personnes fassent quelque chose dans l'entreprise. Mais si demain, c'est pour ça que je peux me permettre de lancer des titres, des fois en me disant peut-être que ça va planter, c'est que si Dada, ça plante, par exemple, c'est pas grave du tout. J'ai vraiment, c'est pas pour ça qu'il faut pas l'acheter, hein. Allez tous acheter Dada, je donne des très mauvais messages, mais je m'en fous, enfin c'est pas grave, demain Dada ça s'arrête, on relance quelque chose d'autre et tout va bien en fait. Il faut juste qu'on ait suffisamment de volume d'activité pour nourrir tout le monde et tout se passera bien. Si Society s'arrête, ça sera un peu plus emmerdant parce que c'est le plus gros aujourd'hui, donc ça... Quand même, ça fera un gros trou dans la caisse et il va falloir relancer quelque chose d'assez gros. Mais autrement, à part Society et éventuellement SoFoot, les autres, s'il y en a un qui ne marche pas, je peux l'arrêter. J'ai oublié SoFilm aussi sur le cinéma. Et donc ça, c'est une grosse souplesse et quelque chose qu'on n'avait pas du tout stratégiquement planifié. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on s'en rend compte, où on se dit on est plus à l'aise pour lancer des nouveaux titres en se disant on peut le faire parce qu'on a beaucoup de journalistes sous la main aussi et que la demande vient toujours des journalistes en fait. C'est jamais moi qui dis c'est pas moi qui dis tiens on va lancer Dada par exemple, ou c'est pas moi qui dis tiens on va lancer Tampon, et c'est surtout pas moi d'ailleurs parce que je déteste le rugby, mais c'est toujours de la part des journalistes qui me disent tiens ça ne dit pas qu'on lance un titre là-dessus, et j'en refuse tous les jours, parce que si je dis oui à tous les titres que la rédaction veut lancer, demain c'est le foutoir quoi. Déjà j'ai l'impression qu'on... Aujourd'hui je crois qu'on fait... On écrit 1,5 million de signes par mois. Je ne sais pas s'il y en a qui sont journalistes dans la salle, mais 1,5 million de signes par mois, c'est colossal. C'est énorme. Et avant moi je relisais tous les articles, c'est fini depuis, je ne peux plus. 1,5 million de signes, je reste un être humain, je peux pas. Mais donc je relis que ceux de Society aujourd'hui et puis Dada là parce que c'est le début. Mais sinon ouais, c'est devenu et ils s'épuisent pas quoi. Ils sont vraiment pour l'instant j'ai très peu de cas en plus de gens qui sont vraiment fatigués et qui veulent prendre des vacances tout le temps. Et c'est C'est assez admirable.
Donc il y a une originalité très forte en termes d'organisation. Souvent, je me pose la question, vous êtes allé sur le foot, vous êtes là, vous allez sur l'épisme, vous êtes allé sur un peu titiller les news magazines, etc. Donc des secteurs qui sont des secteurs assez traditionnels de la presse. Isabelle parlait d'innovation. Quelle est la dose d'innovation éditoriale que vous apportez qui fait que finalement ça vous permet de ne pas en arrêter beaucoup finalement?
Ouais, pour l'instant on a arrêté qu'un, le premier en fait. On a arrêté que Sofa. Inch'Allah, il y en aura peut-être d'autres qui s'arrêteront, on verra. Mais je ne saurais pas répondre vraiment à cette question. En vrai, c'est assez bizarre parce que nous on n'a pas l'impression de faire des choses très nouvelles. Pour être honnête, c'est-à-dire que on attaque des domaines qui nous font plaisir et qui nous intéressent. Il y a toujours un lien avec notre vie personnelle. On a lancé Do Little au moment où j'ai eu un enfant, etc. Et donc du coup, c'est des sujets qui nous intéressent et pour certains qui nous passionnent vraiment fortement. Et donc du coup, je pense qu'on a une lecture entre nous. On dit à hauteur de lecteur. Mais je crois qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas la posture du journaliste qui va donner des leçons, dire il faut aimer ci, il faut aimer ça, il faut penser ci, il faut penser ça. Nous, ce qu'on sait faire, c'est raconter des histoires, qui est un truc vraiment vieux comme le monde. Enfin, je veux dire, dans 250 000 ans, on racontera encore des histoires, donc ça ne mourra jamais. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est ça. Donc du coup, on raconte des histoires, et des histoires qui souvent sont des histoires assez humaines, parce que c'est ça qui nous intéresse et qui nous touche. Et des histoires qui régulièrement nous font marrer parce qu'on reste encore des petits plaisantins. Et donc on a cette façon-là d'écrire et de raconter des histoires qui est l'inverse du truc un peu péremptoire et du sérail qu'on a généralement dans beaucoup de magazines, et notamment des magazines spécialisés, parce que finalement la plupart de nos magazines sont des magazines de niche. Quand on va sur le foot, nous on est arrivé sur le foot, on n'était pas du tout journaliste sportif, on ne savait même pas comment contacter les joueurs au départ. Il se trouve que quand tu es journaliste sportif, tu constates que tous les journalistes sportifs connaissent les joueurs, ils ont les numéros de portable, etc., etc. Nous, ce n'est toujours pas le cas, ça fait 15 ans. On n'a toujours pas beaucoup de numéros, ce n'est pas nos potes, on est toujours dans un truc très à distance, mais comme des passionnés ont envie de raconter le sport qui les intéresse, mais aussi comme des gens qui sont des gens assez normaux et qui se posent des questions de gens normaux, donc qui s'interrogent des fois sur la façon dont les transferts sont effectués, qui s'interrogent sur plein de sujets de manière très naïve. Mais donc du coup, en s'intéressant à ces sujets de manière très naïve, on arrive à obtenir des choses que parfois les autres n'obtiennent pas. Et c'est le cas notamment dans Society avec les interviews politiques. On est assez réputé pour nos interviews dans Society, et nos interviews dans Society, je pense qu'elles ont une valeur qui vient du fait que quand je rencontre François Fillon, par exemple, pour la première interview politique qu'on a fait dans Society, vraiment, je lui pose des questions où il doit se dire, mais il est débile, ce mec. Il doit me prendre pour un con, il doit se dire, mais il sait pas ça. Oh là là, mais tout le monde sait ça. Mais du coup, il me le raconte. Il me le raconte avec ses mots à lui, sur le moment. Et ça donne des interviews qui sont hyper enrichissantes. Quand Fillon te raconte comment il n'a jamais voulu être ministre de l'Éducation, qu'il a tout fait pour ne pas l'être, qu'il s'est retrouvé ministre de l'Éducation pendant 2 ans, je crois, de mémoire, et qu'il était nullissime, qu'il te raconte qu'il a été obligé d'accepter, mais qu'il ne voulait pas le faire, que c'était catastrophique, que personne ne lui obéissait en dessous de lui, parce qu'il n'était pas du tout fait pour ça, etc., etc., etc. Et que tu te dis, mais ah bon, c'est quand même dingue, c'est complètement con comme histoire. Et ben lui, il dit, ah bah ouais, mais ça se passe comme ça, mais vous savez pas que ça se passe comme ça. Et puis là, il te le raconte. Et toi, t'es en train d'enregistrer, tu te dis, mais il est fou. Et ben non, il est pas fou, c'est juste qu'il a besoin, il a quelqu'un en face de lui à qui il explique la vie, entre guillemets, enfin ce qui se passe réellement, ce que les journalistes politiques savent. Donc il ne lui demande pas, en fait. Sauf que moi, je ne le sais pas, donc du coup, je lui pose des questions d'abruti, et ça donne des très bonnes interviews. Sans forcément avoir besoin de jouer au con. Et puis après, effectivement, on a une tradition orale très forte, y compris dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on écrit un peu comme on parle, et puis on pose les questions comme on parle, et on prend les réponses comme les gens nous parlent aussi. Et donc parfois, ça peut poser des petits chocs culturels, parce qu'ils ont l'habitude, en presse notamment, que les interviews soient entièrement réécrites. Et chose qui se passe pas chez nous. Et donc il y a un petit effort d'éducation à faire. Mais ça se passe très bien, en fait. Il faut juste leur expliquer que c'est pas contre leur intérêt. C'est juste que, comme j'ai dit une fois à Raymond Domenech dans SoFoot, je suis personne pour écrire ce qu'il dit, quoi. Donc s'il a l'impression d'avoir parler comme un chartier, j'y peux rien. Moi, je retranscris son interview. Je suis pas là pour corriger ses fautes de syntaxe et puis éclairer sa pensée. Il dit des bêtises, tant pis pour lui, quoi. Et donc voilà. Et donc ça donne un aspect de vérité entre guillemets et d'instantanéité et de spontanéité qui sont assez, qui je pense ont fait notre marque de fabrique, mais malgré nous, parce que nous c'était naturel et de bon sens, c'était pas calculé, c'était pas quelque chose de réfléchi, c'était pas un positionnement au départ. Il se trouve qu'on sait faire que ça et c'est culturel chez nous, donc du coup ça a essaimé dans les différents titres, et ce qui fait qu'aujourd'hui quand on lance Dada, et on fait pas d'études de marché non plus, c'est-à-dire que Dada, moi le marché de la presse hippique, je sais même pas ce qu'il y a comme titre. J'en sais rien du tout, à part Paris Turf que j'ai jamais ouvert de ma vie. Je sais pas du tout ce qu'il y a, donc je saurais même pas me positionner par rapport aux autres titres. Je me dis juste, si j'ai envie de traiter le monde du cheval, je vais le traiter comme ça. Est-ce que ça intéresse des gens? Je ne sais pas. On verra. Si ça intéresse des gens, bah, ça va continuer. Si ça intéresse personne, bah, on arrêtera. Et puis voilà.
D'accord. Alors peut-être on va... Ce que vous nous avez dit, c'est qu'effectivement, il faut renouveler l'offre éditoriale, il faut éventuellement lancer beaucoup de choses, prendre pas mal de risques finalement. Et on sait qu'il y a un système d'aide à la presse en France qui est assez important. Est-ce qu'il est adapté à ce genre de contexte? C'est-à-dire, est-ce que les créateurs de titres, les créateurs de pure players, ou ceux qui ont besoin à un moment donné, par exemple, de trouver un point d'appui pour avancer plus vite, on appelle ça parfois les incubateurs ou les pépinières. Est-ce que l'État a une réponse ou une approche dans ce domaine, Monsieur Cassadevec, qui veille sur cet aspect-là, notamment des choses?
Alors peut-être que mes camarades à ma gauche me diront pas assez, mais en tout cas on essaye.
En partie.
Et, on a fait des choses en particulier depuis 2015. C'est vrai qu'il y a une tradition d'intervention assez défensive du secteur, puisqu'en gros le principe d'intervention, la raison de l'intervention publique, c'est la défense du pluralisme de la presse d'information politique et générale. C'est un principe que le Conseil constitutionnel a installé en octobre 84 en disant oui, c'est un objectif de valeur constitutionnelle de favoriser le pluralisme des quotidiens initialement d'information politique et générale, parce que c'est ça qui permet que la Déclaration des droits de l'homme et son article 11 sur la libre communication des pensées et des opinions, ce soit une réalité, c'est-à-dire que le public, qui est celui qui est le destinataire de cette liberté d'expression, puisse recevoir une variété de titres suffisamment importante pour pouvoir se forger son opinion. Donc, la tradition, c'était une intervention assez défensive qui considérait que favoriser le pluralisme, c'était le défendre, et défendre le pluralisme, c'était finalement aider le paysage existant et faire en sorte, grosso modo, que aucun des titres qui existaient ne disparaisse. Donc c'était en gros l'action cardinale de l'État. Et puis il y a eu des réflexions, puisqu'on a vu justement émerger de nouvelles formes de rapport au public, une demande aussi du côté du public qui n'était pas forcément satisfaite par les titres existants, des acteurs de la presse, des journalistes, des éditeurs qui prenaient le pari d'essayer de répondre à cette demande justement qui n'était pas forcément adressée, pour employer un anglicisme, par les acteurs de l'époque. Et donc il y a eu cette idée de dire il faut essayer d'accompagner cette innovation, parce qu'on sait en plus que c'est dans les premières années de lancement de nouveaux titres que le risque est maximum. Donc il y a eu une réflexion qui a été confiée, alors pardon de te citer Jean-Marie, mais qui a été confiée à Jean-Marie Charron en 2015 pour essayer de voir justement quels étaient les manques dans notre dispositif de soutien et comment il fallait essayer de le faire évoluer. Et parmi les manques qui ont été identifiés, il y avait justement le fait que la barrière à l'entrée de tous nos dispositifs, c'était justement le label de la commission paritaire des publications et agences de presse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de dire qu'est-ce qui est de la presse, qu'est-ce qui est de la presse papier, un journal, une publication périodique, ou qu'est-ce qui est un service de presse en ligne. Et c'est aussi cette commission paritaire qui dit ce qu'est la presse d'information politique et générale. Alors la presse en général, elle a droit à un taux de TVA super réduit à 2,1%, elle a droit à des tarifs postaux préférentiels pour le papier. La presse en ligne a aussi droit depuis 2014 à ce taux préférentiel de TVA de 2,1%. Et ensuite, ceux qui ont la qualité d'information politique et générale ont droit à des aides directes qui sont versées par le ministère de la Culture et qui donc longtemps ont été des aides par définition aux acteurs existants et qui avaient été reconnus qui avaient bénéficié de ce label par la commission paritaire. Donc par définition, tous les titres en création jusqu'au moment de la création ne pouvaient pas être accompagnés. Or, c'est là qu'il y avait un besoin important. Et aussi une demande sous-jacente qui était de dire qu'il faut essayer d'apporter des corrections au phénomène de concentration qu'on observe malgré tout du secteur. Et les grands actionnaires n'ont pas besoin de soutien à la mise en place de nouveaux titres. En revanche, les indépendants, eux, ont besoin potentiellement de ce soutien. Donc ça a été finalement un effort important de l'État de se dire qu'il faut rentrer dans cette logique, sortir d'une approche uniquement défensive du pluralisme et considérer désormais que soutenir le pluralisme, c'est aussi favoriser l'émergence de nouveaux titres et aussi prendre des risques, puisque d'une certaine manière, on ne le souhaite pas, mais les dispositifs de soutien à l'innovation peuvent aussi ne pas marcher au bout d'un certain temps. Et d'une certaine manière, on a accepté ce risque-là. C'est pas de l'argent entre guillemets public investi à des fins de retour financier. C'est de l'argent public investi à des fins de développement du pluralisme et de la pluralité des titres. Donc en fait, on a mis en place après. Il y a eu un groupe de travail après ce rapport qui a reçu beaucoup de spécialistes de l'innovation, d'éditeurs, de journalistes, d'acteurs qui voulaient se lancer. D'incubateurs aussi pour voir comment on pouvait mieux soutenir toute cette démarche. Et en fait, on a mis en place un nouveau fonds de soutien qui s'appelle le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse, qui poursuit trois objectifs. En gros, d'abord, délivrer des bourses d'émergence pour des nouveaux acteurs. Donc ça peut être des nouveaux acteurs papier, ça peut être des nouveaux services de presse en ligne. Donc là, c'est des bourses d'un montant qui peut aller jusqu'à 50 000 euros qui sont attribuées en fonction de critères à la fois ce qui est considéré comme la pertinence en gros du projet éditorial, ce qui répond à un besoin qui n'est pas aujourd'hui présent, est-ce qu'on imagine une niche entre guillemets dans le marché, quelle est en gros la crédibilité de l'équipe et quelle est la crédibilité du plan d'affaires. C'est évidemment une commission avec des personnalités qualifiées et l'État n'est pas seul évidemment, puisqu'à chaque fois qu'on se prononce sur un titre de presse, l'État s'entoure du Conseil pour bien entendu que le soupçon de l'intervention politique ne puisse pas être présent. Et donc, en fonction de l'examen de ces personnalités, un certain nombre de projets ont pu être soutenus. Alors, c'est des projets très variés. Les Jours a pu bénéficier de ce soutien, Contexte, Briefni, Médiacité, qui est la déclinaison régionale de Mediapart, qui est un outil d'investigation au plan régional également. Pas que des services de presse en ligne, hein, des titres papier aussi. Je me souviens notamment du soutien à Topo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la déclinaison de la revue dessinée pour les ados, en fait, qui est une manière aussi d'essayer de faire entrer la presse à un public qui aime la lecture, mais pas forcément la lecture d'articles longs. Donc toujours cette question, quel est mon public, quel est son besoin, quel est son temps disponible, quelle est sa volonté de lecture, finalement. Et c'est une manière de répondre à des niches particulières dans le public qui n'étaient pas forcément... qui n'avaient pas forcément d'offres de contenu pour elles. Donc, premier aspect, la bourse d'émergence. Deuxième aspect, des soutiens aux programmes d'incubation, effectivement. À la fois des programmes d'incubation ouverts aux médias dans des incubateurs, mais aussi des programmes d'incubation où des groupes de presse installés vont pouvoir incuber des start-up en fait, dans leur univers et essayer de travailler sur les fertilisations croisées entre les différents modèles. Et puis il y a un troisième volet qui est le soutien à des programmes de recherche et de développement. Principalement sur des outils de réflexion prospective, mais qui c'est pas que de la recherche théorique d'une certaine manière. L'objectif pourrait être d'avancer sur des mécanismes qui favorisent la monétisation. On sait que c'est un des enjeux importants, qui permettent aussi d'imaginer des univers logués, en gros un équivalent de Facebook Connect pour la presse française par exemple, parce que ce serait pas intéressant de l'avoir. Vous entrez vos identifiants une seule fois, ça vous permet de passer de titre de presse en titre de presse, ou des outils autour de la gestion de la data, des problématiques du data journalisme, de l'intelligence artificielle. Il y a finalement beaucoup de terrains d'innovation qui peuvent être appliqués à la presse, dont on n'imagine pas encore les usages, mais c'est justement tout à fait l'objet de ce troisième volet de ce fonds. Donc, peut-être nos amis diront que ce n'est pas assez, mais on consacre 5 millions d'euros depuis 2016 à ce dispositif pour favoriser cette émergence. On a soutenu 36 titres aux services de presse en ligne en 2016, c'est sur 60 demandes qui nous étaient adressées, donc il y avait beaucoup de titres nouveaux. On a soutenu également 19 dossiers en 2017 au titre des bourses d'émergence. Ça représente en tout 2,2 millions d'euros de soutien à des titres émergents. On a soutenu aussi des systèmes d'incubation. 10 projets soutenus l'année dernière pour un montant de 2,4 millions d'euros. Et on est en train d'analyser les demandes. On a aussi 10 nouveaux dossiers qui nous ont été déposés cette année pour les programmes d'incubation sur le territoire. Donc, on peut dire que c'est tardif parce que les aides à la presse existent de longue date. Historiquement, on dit que ça remonte à Thermidor en 4. C'est un dispositif du directoire sur les tarifs postaux préférentiels. Depuis Thermidor en 4 et depuis le Conseil national de la résistance et les dispositifs de l'après-guerre, on a quand même pas mal évolué en acceptant donc que cette enveloppe de crédit, elle peut se traduire par le fait que des titres ne trouvent pas leur public au cours de cette période. C'est aussi un pari collectif d'une certaine manière. On donne 3 ans en gros aux titres pour prendre leur envol. C'était une des demandes du secteur de dire... On ne demande pas non plus à mettre en place un système de perfusion durable. Si un titre ne rencontre pas son public, eh bien, un autre titre, peut-être, rencontrera le public à sa place.
D'accord. Je ne vais pas vous demander si vous avez assez.
Je trouve que ça a quand même été un changement relativement important, déjà de posture intellectuelle. Qui était déjà pas mal, parce que moi je m'étais beaucoup bagarré contre le systématisme des aides aux grands groupes pendant très longtemps, et le fait que ça évolue depuis 2015, c'est déjà, on s'en rend pas compte quand on fait pas partie du métier, mais c'est déjà énorme en fait, déjà comme changement de paradigme, et donc déjà ça c'est déjà très bien. Après les montants, etc., en soi... Théoriquement, déjà, l'État ne devrait pas aider la presse, qui sont pour les 3/4 des entreprises privées. Donc, théoriquement, il n'y a pas de raison d'avoir des aides. Il se trouve qu'il y en a. Donc, quitte à ce qu'il y en ait, autant qu'elles soient mieux réparties.
Ouais.
Et donc, c'est déjà alors, pas si mal.
Je voulais vous poser une autre question, prendre le problème par un autre bout. Si ce n'est pas l'État, ça pourrait être effectivement le public. Et vous, l'un et l'autre, vous avez eu cette démarche qui, à un moment donné dans vos projets, vous a amené à vous tourner, alors que vous n'étiez même, dans le cas de Les Jours, vous n'étiez pas encore lancé, de vous tourner vers le public. Hein. Donc on appelle ça le crowdfunding, donc le financement par le public. Est-ce que c'est une piste ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent ? Est-ce que c'est pour constituer, je dirais, un réseau de... une espèce de communauté, a priori. Et puis, petite question annexe, une économiste de la presse, la Julia Cagé, a beaucoup insisté sur une problématique un peu décalée, qui est de dire, mais pourquoi pas appeler le public, y compris dans les structures même juridiques des entreprises que vous créez. Vous êtes tous les deux dans des entreprises indépendantes. Vous avez l'un et l'autre insisté sur le fait que vous n'étiez pas allé chercher des groupes ou que vous n'attendiez pas des groupes. Est-ce qu'il peut y avoir une autre relation, dans le modèle économique, entre le public et l'éditeur ?
Alors oui, nous, on s'est vraiment construit sur cette base-là, c'est-à-dire que effectivement, même avant de se lancer en 2016, en 2015, on a lancé une landing page en invitant les gens à s'y inscrire pour en savoir plus du projet. Et c'est ensuite sur cette base d'inscrits qu'on a fait une opération de crowdfunding en juin 2015. Laquelle nous a rapporté plus de 80 000 euros, qui nous a permis concrètement en fait, de construire techniquement le site lesjours.fr. Donc ça, c'était vraiment très important. Et effectivement, comme le disait Jean-Marie Charron, ça nous a permis de constituer une première base d'abonnés et une vraie communauté. Et on a continué dans cette logique-là parce que nous sommes un média indépendant. Donc, qui dit média indépendant dit diversité de sources de financement. Donc nous, on a d'abord notre propre apport, nous les journalistes cofondateurs, on a aussi des privés, et on a, et ça c'est très important pour nous, nos lecteurs. Donc c'est passé par deux biais pour nous, d'abord de l'equity crowdfunding, qui est non pas un crowdfunding traditionnel qui est du don, mais un crowdfunding qui permet de devenir actionnaire. Donc on a fait ça chez Anaxago en 2016 et depuis cette année, parce que ça a été permis par la loi sur l'indépendance des médias de novembre 2016, on a fait une société des amis, c'est-à-dire que ça permet, alors avec des tickets moindres que de l'equity crowdfunding, de devenir actionnaire de son média et d'animer une véritable communauté autour de son média. C'est important parce qu'un média par abonnement, un média indépendant par abonnement, à terme, ça ne doit vivre que par et pour ses lecteurs. Donc les lecteurs sont vraiment partie prenante et donc on leur fait des petites avant-premières. On va organiser en fait l'élection d'une obsession des gens de la SDA qui pourront choisir leur sujet qu'on traitera, quoi qu'il arrive. Voilà, ça a vraiment été notre philosophie dès le départ.
Dans le cas de nous,
c'est beaucoup plus timide à ce niveau-là, pour le coup, même si je trouve que c'est une solution tout à fait pertinente et pas bête, mais qu'on n'a pas vraiment creusé. On a fait une campagne de crowdfunding au début de Society, juste avant le lancement de Society, qui nous a rapporté un peu d'argent, mais en vrai pas énorme, parce que finalement c'était de l'abonnement à moins cher. Enfin, ça nous a rapporté quand même de l'argent, mais c'était pas... le but n'était pas vraiment... On n'attendait pas ça pour le financer, en fait. C'était vraiment... du bonus, et c'est venu un peu plus comme une idée d'ouvrir, de s'appuyer sur une communauté existante, en l'occurrence la communauté des Kiss Kiss Bank Bankers, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin les mecs qui sont sur Kiss Kiss Bank Bank, et d'essayer de voir un peu comment notre projet pouvait résonner chez eux, parce que nous on a déjà notre communauté de gens qui lisent nos magazines, mais on voulait tester un petit peu la résistance à un autre type de communauté. Et je ne sais plus combien on a fait 3500 abonnés, je crois, avant que Society naisse, via ce réseau. Peut-être un peu moins via Kiss Kiss Bank Bank. Il y en a une partie qui venait directement sur notre site, on va dire les 2000, côte mal taillée. Et ce qui était déjà pas mal. Mais ce qui n'était pas vraiment une source de financement et qui était plus une petite expérimentation comme ça, pour voir ce que ça allait donner. Mais non, aujourd'hui, on n'a pas du tout tenté ce système. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi en vrai, pour être honnête. Et là, ce que dit Isabelle me fait réfléchir, et je me dis, il y a peut-être des trucs à... Enfin, en tout cas, c'est le principe des sociaux au foot, c'est-à-dire les supporters qui possèdent en partie leur club. Et je trouve ça pas con. Et ça serait d'autant plus facile chez nous que comme il n'y a pas de dividendes, au moins t'es pas emmerdé. Tu possèdes un truc, mais tu gagnes rien.
Et qui est propriétaire de Sopress alors ?
Moi, en grande partie. Ouais, je crois que je dois avoir 35% du capital. Et après, deux potes qui l'ont monté avec moi, mais qui ne travaillent pas dedans. Mais qui ont gardé des parts, qui ont gardé une partie du capital. Et après, c'est que des potes en fait, qui ont 2% par-ci, 2% par-là. Là, je crois qu'il y a notre directeur financier qui vient de me prendre 0,15%, je crois, parce que c'était l'argent qu'il avait prévu pour s'acheter une voiture. Enfin bref, et il n'achètera pas de voiture. Et voilà, il avait envie d'investir dans. Mais c'est plus de. Enfin, il attend pas de. Je crois pas qu'il attende de retour le truc. Moi-même, j'en attends pas. Donc, on est plutôt tranquille à ce niveau-là. Et l'idée, ça a toujours été d'avoir tout l'argent, de le réinvestir pour soit embaucher des gens, soit développer des nouveaux. Médias, supports, des supports également digitaux, parce que pour le coup, on en développe de plus en plus aussi. Et pour l'instant, ça nous coûte de l'argent plus que ça nous en rapporte.
Peut-être juste préciser l'accompagnement par l'État, effectivement, de ce mouvement, un double mouvement, en fait, à la fois d'application des règles du mécénat à la presse et de développement de l'actionnariat individuel dans les titres de presse. Alors, le développement du pluralisme, le développement du mécénat, appliqué à la presse, c'était pas quelque chose de forcément très évident. Au début, on avait des débats, d'ailleurs, avec nos collègues de Bercy qui disaient, comme l'a pointé Franck tout à l'heure, mais je comprends pas, la presse, c'est une activité privée, il n'est pas écrit nulle part que c'est une activité privée qui est censée ad vitam ne jamais apporter de bénéfices, ne pas être viable, et donc appliquer les catégories du mécénat qui sont censées plutôt être liées à des activités pour le coup à but non lucratif, c'était pas une évidence absolue. Mais compte tenu de l'importance du pluralisme, le Parlement a adopté dans une loi en avril 2015, la loi du 17 avril 2015, une disposition qu'on a appelée l'amendement Charme, parce que c'était la rédaction de Charlie qui avait porté cette mesure avant les attentats, qui a été adoptée à l'unanimité sur tous les bancs dans les deux assemblées, de dire, certes, la presse, c'est quelque chose de privé qui n'a pas forcément vocation à ne pas faire des bénéfices à un moment, mais l'enjeu du pluralisme est important, et donc il faut qu'on fasse bénéficier du mécanisme fiscal du soutien au mécénat les dons à des structures qui vont favoriser le pluralisme de la presse. Il y a en gros deux structures principales qui sont des associations. Il y en a une qui concerne la presse papier qui s'appelle l'association Presse et Pluralisme, qui a beaucoup aidé notamment Charlie Hebdo. En fait, l'ensemble des dons du public ont transité par cette association. Et il y a l'équivalent pour la presse en ligne qui s'appelle J'aime l'info, qui a le même objet, qui a aidé beaucoup Mediapart, qui a aidé Arrêt sur Image et d'autres acteurs. Et vous pouvez ou donner pour le pluralisme de la presse papier ou de la presse en ligne, ou vous pouvez donner de manière ciblée vers tel titre que vous souhaitez plus particulièrement soutenir. Pardon. Et l'autre action, c'est le soutien à l'actionnariat individuel, qui est aussi une manière de répondre, de contrebalancer d'une certaine manière le phénomène de concentration. Et là, c'est une disposition de la même loi, effectivement, d'avril 2015, qui a été améliorée en 2016 et qui permet là une réduction d'impôt pour tous ceux qui investissent ou directement au capital d'une entreprise de presse d'information politique et générale ou via, c'était l'amélioration qu'on a faite dans la loi de 2016, via les sociétés des amis. Et vous avez, alors c'est entre 5 000 et 10 000 euros, selon que vous êtes un individu ou un couple, de plafond de versement, vous avez une réduction ou de 30% ou de 50%. Si vous êtes une entreprise solidaire de presse d'information, qui est le choix qui a été fait par certains acteurs émergents de la presse. Donc voilà, la démarche individuelle est soutenue par une moins-value de recettes fiscales totalement assumée comme un soutien au pluralisme.
D'accord. En fait, c'est le moment, puisqu'on parle du public et de son rôle dans le financement, c'est peut-être le moment de vous passer la parole. Comment ?
C'est le moment où on va passer parmi vous.
Il ne nous reste plus énormément de temps, mais suffisamment pour aborder tous ces sujets que vous avez envie d'aborder avec nous ou pas. Oui, je ne sais pas comment vous...
Attendez, j'arrive, parce que c'est enregistré.
Si ça ne vous ennuie pas, pas forcément de donner votre nom, mais de dire un petit peu d'où vous parlez, quoi. Si vous êtes journaliste, si vous êtes...
Je suis réalisateur de documentaires.
Comment ?
Réalisateur de documentaires. D'accord. Pour la télévision. Okay. Je voulais juste une petite explication sur la crise de la distribution dont vous parliez tout à l'heure. Ah. Et des 2,25 et tout ça. D'accord. Quelques explications pour qu'on...
Alors, je vais faire très court, du coup, parce que ça peut être très très long. Moi-même, je ne maîtrise pas tout, en plus. Il se trouve que donc, la distribution de la presse, aujourd'hui, est effectuée par deux organismes qui sont censés être deux coopératives. Donc, Presstalis d'un côté, MLP de l'autre, Messagerie Lyonnaise de Presse. L'une est plus forte que l'autre. Presstalis représente à peu près 75% des titres.
Distribue
les quotidiens alors que l'autre non. Presstalis, en juin, affichait un résultat prévisionnel de plus 5 millions d'euros à peu près. Et finalement, en novembre, nous annonçait qu'ils étaient en faillite et qu'il fallait qu'en décembre et en janvier, on donne 25% de notre... en tout cas, on avance au moins 25% de notre chiffre d'affaires en soutien de la trésorerie de Presstalis, sinon il ne passait pas l'année. Donc 25% d'un chiffre d'affaires, c'est énorme. En plus, c'est chiffre d'affaires fort, donc c'est chiffre d'affaires TTC. Donc c'est assez énorme. Et qui était censé être remboursé, ce qui sera le cas a priori, j'espère, plus tard. Et ensuite, a été prise une décision qui est que les éditeurs, solidairement, puisque c'est une coopérative, allaient tous verser 2,25% de leur chiffre d'affaires annuel fort, donc pareil TTC, pendant 5 ans. Alors, au départ, ça devait être juste une sorte de dîme, Et finalement, c'est un apport en compte courant rémunéré à terme, le jour où Prestalis aura de l'argent, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas avant quelques décennies. Et donc, voilà. Et d'où ça vient, c'est très compliqué, c'est très lourd. En fait, c'est une sorte de faux duopole, parce qu'en vrai, une partie des dépôts, il y a trois niveaux. Je voulais que je rentre dans ce niveau de détail où peut-être on ça va être on en a pour quelques heures. Oui. Je peux faire un petit exposé, mais ça va être vraiment, vraiment long, je pense. Mais en gros, il y a trois niveaux de distribution. Le niveau 1, c'est donc les deux messageries. Ensuite, il y a un niveau 2 qui sont les dépôts en région. Et niveau 3, c'est les kiosques, les points de vente, les relais H, les maisons de la presse, etc. Et il se trouve qu'au niveau 2, une partie du niveau 2 est possédée par Prestalis. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un faux duopole, c'est-à-dire que même MLP se retrouve à passer par des dépôts appartenant à Prestalis. Tous les dépôts ne sont pas indépendants. Et les autres dépôts qui n'appartiennent pas à Prestalis sont des dépôts qui bénéficient d'un traitement de faveur qui pourrait s'apparenter un peu au système des taxis, c'est-à-dire c'est comme un système de licence. C'est-à-dire que si on trouvait un système plus avantageux pour diffuser la presse à ces niveaux-là, on serait quand même obligé de les rémunérer puisqu'ils ont un accord à ce niveau-là d'un montant de 7% et qu'un truc qui en plus se transmet. C'est comme s'ils avaient acheté une licence, quoi, en gros, pour distribuer la presse. Et tout ça fait que c'est très compliqué et très... c'est un peu le problème de... On va revenir un peu au problème de la SNCF. C'est très difficile de trouver des solutions, en fait. Il y a des blocages, on va dire.
Est-ce que oui. peut-être un mot puisque l'État a été
amené
à intervenir dans le secteur. Donc c'est effectivement un acteur important qui avait une situation de trésorerie très très complexe avec un risque systémique, comme on dit en économie, qui était important, c'est-à-dire que l'ensemble de l'écosystème de la presse, c'est effectivement des messageries, c'est des éditeurs. Il y a des éditeurs indépendants qui n'ont pas derrière eux d'actionnaires importants capables de les soutenir dans l'hypothèse de la défaillance d'un acteur majeur. Ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que c'est un acteur qui fait remonter l'ensemble du cash de la chaîne, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait... c'est pas le titre de presse appartient à l'éditeur jusqu'au point de vente, jusqu'au kiosque ou jusqu'à la maison de la presse. C'est seulement le lecteur qui l'achète, et entre l'éditeur et le lecteur, ça a juste été une succession de mandats. En fait, personne n'a acheté le titre. Donc le cash du titre, il est intégralement dans la chaîne, en train de remonter progressivement du point de vente vers le grossiste régional, vers la messagerie, vers l'éditeur. Donc vous comprenez bien qu'à si à un moment un acteur qui a 75% du marché tombe,
qu'est-ce qui remonte en gros ?
Comprendre la difficulté
pour la faire simple, qui
peut exister.
Voilà, s'il tombe, et 75% des titres tombent.
Et il y a les titres, et il y a aussi les diffuseurs de presse. Il y a 24 000 diffuseurs de presse sur le territoire qui sont les marchands de journaux auxquels vous achetez les titres tous les jours, j'espère. Et donc, pareil, leur situation de trésorerie est très, très fragile. Et si un acteur qui a 75% de la rémunération disparaît, vous voyez assez vite l'impact potentiel. Donc, d'où l'accompagnement que l'État a fait, l'accompagnement que l'ensemble des acteurs font, puisque les éditeurs font un effort dans le futur, l'État a fait un effort immédiat, et l'entreprise fait aussi des efforts de restructuration, hein, parce que c'est une entreprise qui n'a cessé de se réformer au fil du temps. Il y avait 6 000 personnels il y a une dizaine d'années, il y en avait 2 400 il y a 5 ans, il y en a 1 200 aujourd'hui. Il y a des mécanismes de... réflexions permanentes de restructuration qui sont en cours et qui font l'objet de discussions, évidemment, avec les partenaires sociaux, comme toujours dans ces cas.
D'accord. Voilà pourquoi on a décidé de se lancer uniquement sur Internet.
Ouais. Il faut aussi rappeler quand même... faut toujours avoir le fond de carte qu'a donné Fabrice tout à l'heure, c'est-à-dire la diminution du chiffre d'affaires du secteur. C'est-à-dire aucune entreprise chargée de vendre des produits ne peut absorber facilement une telle diminution de chiffre d'affaires. Alors quand en plus les structures sont assez rigides, et c'est quand même largement le cas, il est évident que... Enfin, moi je sais que j'avais fait un travail de prospective il y a une dizaine d'années sur l'évolution un peu de la presse, avec toute une série d'intervenants. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant a priori la presse est capable de se réorienter sur le numérique, elle est capable aussi de continuer à investir en se transformant sur l'imprimé, Mais on a un gros point d'interrogation, c'est comment, effectivement, trouver des réponses du système de distribution, parce qu'il faudrait effectivement un système de distribution beaucoup plus souple dans ses capacités de répondre à une transformation. C'est très très rapide, hein, les chiffres qu'a donné Fabrice, c'est en 10 ans. Hein, c'est extrêmement rapide.
Et en plus, c'est des chiffres qui sont en vrai beaucoup plus catastrophiques, parce que c'est des chiffres qui sont ici contrebalancés par notamment l'abonnement, qui est quelque chose qui va plutôt bien. Parce que comme à chaque fois qu'il y a des points de vente qui meurent dans des zones diverses et variées de France, forcément les gens qui veulent quand même continuer à lire de la presse s'abonnent, entre autres. Enfin, c'est un des phénomènes qui fait que l'abonnement continue à grossir, c'est qu'il n'y a plus de points de vente à Bourg-en-Bresse, quoi. En gros. Et donc du coup, si on prend les points, vraiment les ventes purement kiosque et donc qui concerne Prestalis, etc., le chiffre est beaucoup plus difficile encore. Donc voilà.
Est-ce qu'on a d'autres questions? J'espère.
J'en aurais juste une petite deuxième, je profite d'avoir le micro, sur un tout autre sujet, sur celui des écoles de journalistes dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous savez chacun, de votre point de vue respectif à chacun, la manière dont ces écoles s'adaptent ou réfléchissent ou intègre les questions que vous avez abordées ce soir et de quelle manière? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Éventuellement, vous fréquentez des jeunes journalistes qui sortent d'école ou...
Non, moi ce que je constate quand même, c'est que dans les écoles de journalisme, il y a quand même quelque chose qui a été plus ou moins intégré, c'est que le média papier est un média de temps long. C'est-à-dire qu'il y a plus... ça a quand même été... Enfin, je le vois moi avec tous les stagiaires et les offres de stage, les demandes de stage qu'on reçoit tous les jours qui sont énormes. Et on prend quelques stagiaires, nous on n'en prend pas beaucoup, parce qu'on fonctionne avec peu de stagiaires, mais on en a 4-5 régulièrement. Et en fait, c'est très clair dans leur esprit, c'est-à-dire que le média papier va être un média de temps long. Ils n'ont aucun doute là-dessus. Et je pense qu'ils sont plutôt dans le vrai. Mais sinon, après, sur les réalités vraiment de la presse, etc., je ne sais pas si les cours leur enseignent ce genre de données. J'en sais
rien. Oui, j'ai l'impression que ça a pas mal évolué. Nous on travaille, par exemple, avec l'ESJ à Lille, qui nous ont fait une obsession. Donc, il y a un vrai goût pour des nouveaux modes de narration journalistique et de nouvelles formes de presse. Donc, je pense que ça évolue.
Bonsoir. Il y a déjà assez longtemps, on pressentait quand même, à travers la digitalisation de l'économie, que ce secteur allait aussi être touché. Le jeune homme qui a lancé SoFoot, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a animé pour vous lancer dans ce secteur, sentant qu'il y a quand même, il y aurait des décombres. Hein, vous êtes un aventurier, mais un aventureux apparemment. Ceci dit...
Parlez dans le micro parce qu'on entend très mal.
Ceci dit... Vous avez entendu ce que j'avais dit en premier?
Oui, bien sûr.
D'accord, merci. Ceci dit, bon, ben, vous nous avez assez éclairé un peu sur ce secteur. Bon, on ne connaît pas beaucoup le secteur de la distribution, parce que moi, j'en ai vu des grèves et des grèves qui ont mis des journaux presque à mal. Et là, en dehors de la distribution, parce qu'il va y avoir d'autres formes de distribution, ça n'a pas existé comme ça, la digitalisation. Prospectivement, vous avez déjà assez d'expérience maintenant pour voir comment va évoluer le secteur de la presse. Mmh.
Donc, je vais essayer de répondre à
cette
question. La première question, c'était pourquoi se lancer dedans. En plus, je me suis lancé tard, finalement, parce que je me suis lancé au début des années 2000, donc c'était déjà le bordel. Parce que j'ai pas trop réfléchi, en fait, basiquement. Ça s'est fait un peu comme ça. Et puis, il se trouve qu'on a réussi, nous, à être rentables et à tenir debout. Donc, quand tu tiens debout et que tu marches, tu continues à avancer, en fait. Tu te poses pas trop la question, tu te dis pas, je vais m'asseoir et attendre. Donc tu continues à marcher, et puis on continue à marcher. Et pour l'instant, ça va, on n'est pas les plus à plaindre, en tout cas. Pour répondre à la partie prospective, moi je crois toujours, comme je disais, le récit plus que la presse, parce que finalement, nous, on fait de la presse, mais on fait aussi... j'ai deux sites internet assez forts, SoFoot.com et Trash Talk sur le basket. SoFoot, c'est 3 millions de visiteurs par mois, donc c'est quand même le site de SoFoot, donc c'est quand même des sites qui commencent à peser. Et puis Trash Talk, c'est 500 000 visiteurs par mois, donc c'est aussi assez correct. Et puis on a une chaîne Discover sur Snapchat pour Society. On a lancé Brut Sport il y a un an et demi en médias pur social. Voilà, on tente plein de petites choses. Là, on a lancé un truc qui s'appelle Good Job, sur l'univers de l'emploi, qui est un média digital pur et uniquement de niche sur l'emploi. Donc on lance des trucs régulièrement sur les médias digitaux. Quant à savoir si la presse va s'arrêter, je crois beaucoup dans le fait qu'il y aura toujours besoin de raconter des histoires. Je pense qu'il y aura toujours besoin de les raconter sur du papier, parce que ça permet de raconter parfois des histoires plus longues. Ça permet pas forcément d'avoir la logique de série que peut avoir Les Jours, mais ça a d'autres avantages. C'est juste que c'est un peu comme le marché du vinyle. Si on prend, puisque vous parliez de différentes industries qui ont subi les déboires entre guillemets de la digitalisation, la musique est assez comparable en fait. C'est-à-dire que ce qui meurt, c'est ce qui est au milieu et qui est un peu tiède. En gros, le CD. Le vinyle aujourd'hui se porte très bien. J'ai un label par ailleurs. Je vends plus de vinyle que je vends de MP3, enfin que je vends de téléchargement sur iTunes, par exemple. Et l'économie de mon label se fait uniquement sur le vinyle. Après, c'est du petit artisanat. C'est-à-dire que je vendrai certainement pas 200 000 magazines dans 10 ans. Mais j'en suis conscient. Et ça sera un produit de luxe, comme le vinyle est devenu un produit de luxe. Mais comme la presse est déjà un produit de luxe, en vrai, depuis que je le fais, donc c'est devenu un produit. C'est pour ça que la crise de la distribution est aussi forte, c'est qu'il y a 24 000 points de vente, comme tu le disais, mais combien de journaux ou de magazines ont besoin de 24 000 points de vente aujourd'hui? Malheureusement, aucun à part l'équipe, et encore. Le Monde n'a pas du tout besoin de 24 000 points de vente. Le Monde, ils ont besoin de 14 000, 15 000 points de vente. Nous, on a besoin de 9 000 points de vente. Sur 9 000 points de vente, on fait 85 % de notre chiffre d'affaires. Donc, et le système de distribution n'est pas du tout adapté au fait que le marché s'est rétréci. C'est-à-dire que pendant des années, ce que disait Jean-Marie en disant qu'il avait senti venir cette décroissance forte, je veux dire, on la connaît, cette décroissance, on le sait. Moi, depuis que j'ai lancé des magazines, on me dit que c'est la crise et on me dit pourquoi tu lances des magazines, t'es con. Donc, je veux dire, tout le monde le sait que ça, c'est un marché qui est en décroissance. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un marché qui est mort, c'est juste un marché qu'il faut savoir prendre dans le bon sens. Et effectivement, la logique économique des gros groupes et des gros news, notamment, etc., elle n'est plus adaptée à la réalité du marché aujourd'hui. Mais ça fait des années qu'on le sait, ça. Donc, pourquoi nous, on s'en sort un peu moins mal que d'autres? Parce que quand on est né, c'était déjà la crise. Donc, on est déjà adapté à ce système et on a déjà fait des vinyles au lieu de faire des CD, en fait. C'est une métaphore un peu étrange, mais c'est un peu ça, le principe. C'est que si on sait déjà que ça va être un média de luxe, de niche, bah, fait des magazines de luxe, entre guillemets, et de niche. Enfin, des magazines qui ne visent pas... 250 000 personnes, parce que de toute façon, tu ne les vendras pas, les 250 000 personnes, tout simplement parce que tu ne pourras pas les toucher. Il n'y a pas les points de vente pour aujourd'hui. Il y a 10% des points de vente qui ferment quasiment tous les ans. Donc, ça, c'est pas possible.
On n'a plus beaucoup de temps, donc bonjour. Si vous voulez bien nous... Peut-être vous êtes plusieurs à avoir des questions ou pas?
On va faire des réponses plus
courtes. On va peut-être prendre plusieurs questions d'un coup, bon, et puis on répondra en cascade.
J'ai deux petites questions. Alors, une... comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu d'émergence d'un iTunes de la presse en ligne, puisqu'il y a quand même une forte montée maintenant de l'abonnement, enfin en tout cas des titres qui réclament de l'abonnement, type Mediapart, mais voilà, donc Les Jours ou d'autres. Et la deuxième, c'est, j'aimerais bien avoir votre avis, enfin en tout cas votre point de vue sur la partie économique, sur le web, au niveau des pubs en programmatique et du social. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous d'investir dans ces éléments-là, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous savez que ça ne va pas particulièrement porter des fruits à long terme? Voilà.
Autre... On va peut-être prendre... Parce qu'autrement, là, on a plus que ça.
Juste une question sur les lecteurs. Vous avez l'un et l'autre évoqué, vous, des courriers sur Dada, Madame, la finance participative, et puis des événements. Comment vous traitez ça? Parce que quand on voit les titres plus anciens, il y a le courrier des lecteurs, il y a des médiateurs. Je sais que par endroit, il y a des lecteurs. Comment vous utilisez leur information? Il y a des lecteurs qui contribuent à faire remonter l'information. On voit bien des appels. Et ce qui aussi peut faire un attachement au titre, hein, entre parenthèses. Si vous pouvez, parce qu'on n'en a pas encore parlé, on parle du modèle économique. Et à mon avis, ça rentre dans le modèle économique aussi.
Ouais. Nous, très basiquement, on le traite nous-mêmes, en fait. On répond nous-mêmes et on. Voilà. Et c'est comme nos amis. Donc on leur répond quand parfois ils nous insultent, quand parfois ils nous encouragent, quand parfois ils nous suggèrent des idées. Ça remonte assez facilement, en fait. Les gens ont nos mails très rapidement et nous écrivent très simplement.
Oui, c'est à peu près pareil. Je pense que c'est une nouvelle façon d'aborder les lecteurs, quoi. C'est la même logique. J'ai l'impression que dans pas mal de journaux, la tête des journaux s'est coupée des lecteurs, finalement. Enfin, moi, je l'ai vécu à Libération, où finalement, il y avait très, très peu de rapports avec les lecteurs. Or, c'est très simple de parler avec les lecteurs. On peut dialoguer sans problème. Nous, on a une adresse qui s'appelle Contact et où on dialogue avec les lecteurs. Et pour la question plus spécifique de la Société des Amis, on a un forum qui est réservé à la Société des Amis où on dialogue avec eux.
On n'oublie pas votre question. Hein. On attend la fin de cascade et on
lui
a promis.
Non, on arrête. Oui. On passe sur le programme. Non, il y a une autre question. J'ai un spot qui a plein de figures, donc je vois rien du tout.
Excusez-moi. J'ai une question qui est très terre à terre. Elle concerne le profil. J'aimerais être éclairé sur le profil des journalistes qui travaillent pour vous, parce qu'il m'a semblé entendre à un moment donné qu'ils racontent des histoires, qu'ils sont naïfs, la naïveté de leur façon de faire. Moi, je ne sais pas. J'aimerais savoir comment on peut, indifféremment, comme ça, passer de l'hippisme au football. Je ne sais pas. En tant qu'ancien scribouillard, je pense qu'il faut un minimum de culture dans chaque domaine. Et que si on ne sait pas le 400 mètres nage, avec quoi on peut le mesurer, on ne sait pas trop. Si c'est en mètre ou en minute ou en mètre cube.
J'ai compris la question.
Si c'est en mètre cube, j'aimerais être éclairé aussi.
C'est juste
sur le profil des journalistes qui passent d'un domaine à un autre comme ça sans avoir un minimum de culture.
Non, mais alors qui a dit qu'il n'avait pas un minimum de culture? Personne. Non, il se trouve que c'est des très bons journalistes. Et ce qui fait la force d'un très bon journaliste, c'est sa curiosité. Et donc, quand il s'intéresse à un sujet, généralement, il le maîtrise très vite, très bien. Et il l'appréhende très bien. Et du coup, il se forge cette culture rapidement. Et il est pertinent. En tout cas, là, j'en juge par Dada, par exemple, qui, effectivement, où au départ, il n'y a aucun spécialiste de hippisme qui écrit dedans. Et tous les journaux spécialistes de hippisme, dont j'ignorais même l'existence jusqu'alors, on saluait le contenu de ce magazine. Donc, c'est-à-dire que les professionnels de la profession les plus pointus sur le sujet y ont appris des choses. Donc, c'est ce que je pense être la force d'un bon journaliste, c'est qu'en très peu de temps, on apprend à s'intéresser à un sujet et on apprend à le maîtriser. Il y a un jeune homme qui tout à l'heure a posé une question qui est réalisateur de documentaires et je pense que c'est la même logique quand on réalise des documentaires. C'est-à-dire que nous, on en produit beaucoup par ailleurs maintenant et quand tu produis un documentaire, tu n'es pas forcément spécialiste du sujet au départ. C'est un sujet qui t'intéresse, tu t'y intéresses vraiment, tu te plonges dedans. Alors ça prend du temps, ça ne se fait pas en 3 semaines, mais en y prenant du temps et du travail finalement, tu arrives à devenir un très bon journaliste de ce secteur. Sans que ce soit un problème et qu'il y ait besoin d'avoir un diplôme de spécialiste du genre. Et moi, je crois beaucoup dans cette forme de journalisme-là. Mais ça demande beaucoup de travail et d'être très sérieux, appliqué, pointu et aimer travailler.
On prend une dernière question ?
Il y a la question de la programmatique et du financement des médias digitaux. Et je ne sais plus ce que c'était.
iTunes de la presse.
Oui, ah oui, l'iTunes.
Sur l'iTunes de la presse, je peux vous parler d'une initiative pour les titres indépendants qui s'appelle La Presse Libre, qui permet de grouper des abonnements à plusieurs médias indépendants. Donc voilà, ça c'est une initiative qui existe, mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que on peut pas multiplier les abonnements. Donc on manque vraiment d'un écosystème de la presse indépendante. Quoi. On aurait tout intérêt à plus se parler, à plus s'allier.
Je pense qu'il y a un frein d'acteur aussi et, et de logique de rentabilité. C'est-à-dire que iTunes, ils y ont vu un vrai intérêt business parce que déjà, à la base, il y avait une matière qui était très importante et relativement universelle, qui est la musique, où il n'y a pas la barrière de la langue, très peu en tout cas. Aujourd'hui, si c'est vraiment une logique économique, hein, j'y ai pas réfléchi avant ta question, en vrai. Mais si je me disais, tiens, je vais monter une espèce de centrale qui va réunir toute la presse française, bah, je vais pas faire beaucoup en ligne, je vais pas faire beaucoup d'argent potentiellement. Alors que si je le fais de manière internationale, je peux faire un peu d'argent, mais sauf que ça va être très compliqué en France de vendre le New York Times, quoi. Alors que c'est pas le cas en musique, c'est quand même beaucoup plus simple. La barrière de la langue est quand même nettement moins là en musique. On achète tous des albums de Beyoncé, ou presque. Je provoquais. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un peu cette logique-là. Il n'y a pas un acteur qui s'est posé en référent hégémonique comme a pu le faire iTunes. Et après sur la programmatique, toi, il y a pas de programmatique depuis
premier.
Moi, il y en a. La pub programmatique sur mes sites, c'est pas l'avenir, mais on continue à la prendre tant qu'elle est là. Mais on sait que c'est pas l'avenir. Et quant à la pertinence des médias sociaux purs et durs, c'était ça ta troisième question. Ben on le voit là en ce moment. C'est le problème des médias qui sont. Vous souvenez, il y a 2 ans, il y a Minute Buzz qui a fait tout un buzz entre guillemets en disant ouais, il faut arrêter les sites internet. C'est has-been, les sites internet ça marche pas, il faut faire que des médias, des purs médias sociaux et faire des vidéos sur Facebook. Si vous voulez, on va leur reposer la question aujourd'hui. Je suis pas sûr de la réponse. Enfin, je suis à peu près sûr d'une réponse inverse. Parce que le problème d'être dépendant d'un média, puisque c'est aussi considéré comme un média finalement, ou enfin, je sais pas comment on appelle, une plateforme comme Facebook, c'est que le jour où elle décide de couper le robinet ou d'inverser le sens de l'eau, ou de se dire je vais faire du goutte à goutte, bah, vous pouvez rien faire en fait. Et aujourd'hui, les médias sociaux sont dans une problématique qui est très compliquée, c'est d'émerger sur le feed des différents acteurs de ces plateformes qui ne les voient plus parce qu'ils ont décidé via un petit algorithme de changer la petite musique. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils vont dire bah, vous voulez que la musique s'inverse ? C'est très simple, vous payez. Le but de Facebook n'est pas du tout d'être un média qui ne gagne pas d'argent. Donc, à un moment donné, ils vont demander aux médias, aux publishers, enfin aux éditeurs, de payer pour être exposés et pour émerger. Et là, ça sera nettement moins rentable pour ces médias-là. Donc, je pense que Minute Buzz va recréer un site dans pas très longtemps, si vous voulez mon avis.
Ok. On va peut-être, avant de... Si c'est une question qui ne nous ouvre pas sur 3 heures, hein, parce que moi je peux pas.
Je voulais savoir à l'avenir, qu'est-ce que vous imaginez donc si pour le web la pub déjà apparemment ça rapporte pas grand chose, donc ça sera juste des abonnements qui permettront de s'en sortir. Et ensuite, est-ce que c'est un bon modèle économique le paiement des articles uniquement et pas un abonnement mensuel.
Alors avec une plateforme type Blendl, des choses comme ça.
Ouais. Le single, quoi. La logique du single. C'est bien, il y a une vraie thématique musique ce soir. La logique du single, comme ça, c'est assez flatteur et tu te dis, ah, pourquoi pas, etc. Pour l'instant, toutes les tentatives, il n'y en a aucune qui a marché. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas à l'avenir. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas très bien.
Blendl, ça marche pas si mal que ça en Hollande, non?
En Hollande, ouais.
Bah oui.
Mais bon.
Tu crois que c'est une question de gêne.
Je sais pas, mais ça marche pas. Ça marche pas si mal dans un petit marché avec des acteurs pas très gros et une demande. Enfin.
Et aussi un pays qui fonctionne beaucoup par abonnement.
Je sais pas. Ils ont essayé en France hein, de s'imposer. Ouais.
Bah, c'est les éditeurs qui les ont bloqués plutôt.
Oh, pas tant que ça. Hein. Nous, quand ils sont venus nous voir, ils avaient déjà plein d'éditeurs dans leur manche. Et il y a eu d'autres tentatives par ailleurs. Après, pour l'instant, il n'y a pas encore, y a pas encore de. En fait, le problème des éditeurs, c'est qu'ils sont assez peu camarades et assez peu solidaires. Et ils ont assez peu envie de se mélanger.
Ouais, et puis les gros veulent jouer l'abonnement en plus.
Bah, les gros, ils jouent leur sauce. Ouais. Et puis, ils n'ont pas envie de partager. Ouais. Et puis, les petits, ils sont petits. Et donc, ils ne pèsent pas bien lourd. Et donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un système qui fonctionne. Et quant à l'avenir, en vrai, moi, à titre perso, j'en sais rien pour l'instant. C'est vraiment les questions qu'on se pose, nous, chez nous, en termes de. Autant sur le média papier, on voit assez bien ce que ça va donner et comment continuer à gagner de l'argent, si tant est que Prestalis tienne debout ou soit remplacé par un autre système, ce qui serait peut-être préférable un jour, etc. Mais bon, si on en arrive à régler cette problématique de distribution de la presse, qui est une problématique un peu macro. D'un point de vue purement microéconomique, nous on voit comment fonctionner en presse et comment faire des magazines qui tiennent debout, y compris dans 10 ans, et y compris avec la décroissance, y compris avec le fait qu'il y ait moins de points de vente, etc. Et sur le digital, bah là en ce moment on étudie plein de pistes et on fait comme on sait faire, c'est-à-dire qu'on s'est plongé dans le truc, on a interviewé tous les mecs qui avaient réussi quelque chose ces 10 dernières années. On fait comme un espèce d'énorme article et on essaie de tirer les leçons de ça et de voir un peu. Quelle est la bonne piste, puisque de fait tous nos canards aujourd'hui papier ont un pendant digital quasiment. Donc Society en aura un aussi un jour, c'est juste que pour l'instant on ne sait pas encore lequel est le bon. Donc on se pose exactement la même question que toi. Et le jour où j'ai la réponse, bah, ça se saura. On verra un petit Society naître en digital.
Non, bah, nous c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression qu'on en est encore à la préhistoire. C'est-à-dire que sur Internet, il y a très peu de choses qui s'inventent encore aujourd'hui. Et je pense que c'est ça va évoluer. Il faut tenir compte des usages de la presse. Il faut tenir compte de l'UX, de l'ergonomie. Après, moi, j'ai pas de boule de cristal. Je sais simplement que on va s'informer de plus en plus souvent via le numérique. Même si, évidemment, je ne souhaite pas la mort du papier, mais qui existera. Qui existera. Non, mais c'est un bon exemple, parce que je pense que ça peut exister sur des titres très spécifiques. Ceux qui vont vraiment avoir des problèmes, c'est les quotidiens papier. Bon, voilà, mais ça fait un petit moment que ça arrive. Donc, moi, évidemment, que je vois l'avenir de la presse sur le numérique, avec, pour le papier, des publications très spécifiques et très différentes.
L'achat à l'article n'a pas trop marché en France. Il y a les kiosques numériques qui ont quand même un peu. Qui se lancent progressivement, avec des opérateurs télécom souvent, parfois. SFR Presse a fait des choses, e-press a fait des choses, il y a de nouvelles offres qui naissent.
Oui, mais alors ça pose un autre problème.
Ça va beaucoup changer parce que.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Ils ont changé dans une seule logique, c'était vous arnaquer en gros, puisque c'était le principe, c'était.
On a réformé la loi.
Je vais encore me faire taper sur les doigts.
Ça s'appelle un détournement de TVA.
Ouais.
J'irai pas jusque-là.
Bon, on peut le dire.
Moi, j'y vais.
En tout cas, nous avons limité les possibilités d'optimisation fiscale.
Voilà. Mais donc, du coup. Curieusement, ça va faire évoluer leur modèle.
Voilà.
Alors, il y en a qui arrêtent, mais il y en a qui continuent et qui proposent autre chose. Donc, c'est ça.
Mais qui proposent en payant. Mais ce qui est bien, ce qui est une bonne stratégie, nous, on est parti des SFR Press justement parce qu'il se trouve que je suis chez SFR et que j'ai reçu un jour un SMS en me disant ouais, vous pouvez avoir Society et SoFoot gratuit. Je dis bah, ça m'étonnerait ça, tiens. Alors, là, mon pote, je crois que t'es mal tombé là. Et donc, du coup, j'ai appelé direct et je dis bah, on sort direct de l'offre. Pas de bol. Il aurait mieux valu que je sois chez Orange pour eux. Mais donc, du coup, je suis sorti. Mais demain, si les gens payent, ce qui est censé être le cas chez Bouygues et Orange pour l'instant notamment, moi, ça me va très bien. Enfin, c'est que les gens lisent sur leur smartphone ou sur un site ou sur du papier, en vrai, je m'en fous, j'ai pas de papeterie. Hein. Donc, je veux juste que les gens lisent. parce que ça les rend moins cons a priori, donc du coup tant qu'à faire. Mais donc ça c'est pas forcément un mauvais usage, mais il va y avoir une décroissance forte des abonnements, enfin des ventes, je mets des guillemets, digitales dans les prochains OJD, je pense. Et ça va concerner tout le monde, mais les OJD qui bénéficiaient de SFR Press, nous quand on est parti, on en faisait 16 000 par numéro. Je peux vous dire que mon DG, quand je lui ai dit on se casse, et il m'a dit oh t'es sûr? Quand même ça nous fait de l'argent. Je lui ai dit ouais on part. Ils ont dit qu'on était gratuit. On n'est pas gratuit. Puis, hop, dehors. Mais ça faisait une petite rente, mais du très court terme, en fait. Et c'était effectivement du pur détournement de TVA. Faut dire les choses.
Peut-être juste un dernier point pour ne pas parler du court terme, mais pour parler du moyen-long terme. Juste pour indiquer, vous en entendrez parler dans l'actualité dans les prochains mois, après le sauvetage à court terme de Presstalis, il y a un travail important qui va être
fait sur l'idée à court terme, j'aime bien le
sur mot. La loi Bichet qui réglemente en fait la distribution de la presse et qui va faire l'objet de travaux dans les prochains mois, dont vous entendrez parler.
N'hésitez pas à impliquer les jeunes éditeurs.
Oui, à leur demander leur avis.
Si je peux me permettre.
Tout le monde sera impliqué.
Une fois qu'on a réglé les problèmes entre l'État et les éditeurs, on va pouvoir vous proposer de passer une bonne soirée. Est-ce que vous auriez des conseils de lecture pour prolonger la discussion? On a cité des chiffres tout à l'heure, on les trouve sur les sites internet par exemple. La CPM.
Alors, il faut lire les livres de Jean-Marie Charron, bien sûr.
Non, je vous cite les sites internet. ACPM, IREP.
Oui, il y a sur le site du ministère de la Culture, vous avez un onglet voilà. Sur les aides à la presse où on met un certain nombre de rapports, où on met où on publie tout le tableau des titres aidés. C'est très transparent, donc vous pouvez aller voir qui bénéficie de soutien public dans les différents dispositifs et comment fonctionnent les...
Je vais poser une question qui fâche. Où est-ce qu'on peut lire le rapport Ramex? Il y a un rapport qui a été fait sur l'état de la presse et j'essaie de le lire. Personne ne veut me le donner.
C'est vrai. Je sais pas, il faut lire la presse.
J'ai lu dans la presse et dans la presse, on me dit on n'a pas le rapport Ramex.
Et il y a des rapports parfois confidentiels. Il y a des réformes qui sont toujours publiques.
Moi, j'aimerais bien le lire, ce rapport-là.
Je sais pas vous. Autre conseil de lecture? Non? Bon. Bien, ben merci beaucoup pour votre participation, votre attention.
Donc, il me revient de remercier nos quatre intervenants ce soir. Donc, Jean-Marie Charron pour cette modération, Franck Anaise, Isabelle Roberts et Fabrice Casadebé. Bien entendu, vous trouvez tous les titres à la bibliothèque. Bien entendu, vous avez aussi un abonnement au jour à la bibliothèque. Ce soir a été enregistré grâce à nos régisseurs que je remercie, ainsi que les autres dates de reportage. Je vous donne rendez-vous le 4 juin pour la prochaine table ronde. On en a fait mention ce soir sur le récit journalistique, voilà, la mise en récit des faits, le journalisme gonzo, enfin ces façons de raconter des histoires dont nous parlait Franck Anaise. Et avant ça, le 23 mai, dans la bibliothèque, avec Sébastien Calvé, qui est directeur photo des jours. À très bientôt et merci.